I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, je lisais un truc la dernière fois qui m'a limite un peu choqué. Di Maria, ouais. Qui est un footballeur quand même assez exposé, tu vois, joueur du PSG, ouais, ouais. Qui parlait ouvertement du fait qu'il avait consulté il y a quelques années un psychologue. Pour surmonter les critiques dont il était l'objet en Argentine, etc. Ouais. Et de mémoire, c'est la première fois que je vois un joueur de foot, en plus de son calibre, parler de sujet-là, qui est plutôt en général un peu un sujet tabou. Ouais, toi, à ton époque, vous bossiez avec des psychologues, il y avait des sujets comme ça dans les staffs?
Non, parce que comme tu l'as dit, c'est un sujet tabou. Je pense que ça ne doit pas être le seul à consulter, mais comme c'est Di Maria, il peut se permettre de le dire. Ouais. Mais de mon temps, non, si tu consultes un psychologue, c'est que t'es un fou ou t'es un faible.
Ouais, donc il y a tout de suite une notion limite liée à des pathologies ou des gens qui ont un problème.
Et c'est un petit peu comme dans la société. Hein. Tu vois, tu dis pas que même quand t'as un problème, je vais aller voir un psy. Tu vois, c'est un peu tabou. C'est un peu,
c'est
et,
ça, dans, ouais.
Et chez les footballeurs, donc, tu dois toujours montrer que tu es fort.
Ouais, c'est
t'es
ça.
Un costaud, t'es un taulier, tu peux pas dire.
Je pense que tu as raison, le côté ego et image des footballeurs, ça amplifie le phénomène que tu retrouves dans la société. Et je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant. D'ailleurs, je connais une psychologue qui est spécialisée dans le travail psychologique avec les sportifs, qui a longtemps travaillé avec INSEP. Et je pense que ce serait intéressant de lui poser la question pour voir comment ça évolue et comment on peut intégrer la préparation psychologique dans la préparation des footballeurs.
Tu connais mon adage, à partir du moment où il y a psychologie et sport dans la même phrase, je suis bingo.
Alors on y va.
Go.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
Bonjour Myriam, je suis Mathieu Lille-Palette, je suis SVP d'Opta et je suis accompagné par Édouard Cissé.
Bonjour tout le monde, bonjour Myriam, enchanté de faire votre connaissance.
Bonjour Édouard, de même pour moi.
On est très heureux de vous rencontrer et on a beaucoup de questions à vous poser au sujet de la psychologie et des sportifs, de la psychologie et du foot. Et justement, la raison pour laquelle on vient vous parler, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, nous, c'est le football et tout ce qui tourne autour, ou ce qui ne devrait pas tourner autour, mais qui devrait être dedans. Et le thème sur lequel on aimerait échanger avec vous aujourd'hui, c'est de se poser la question s'il faut être heureux pour performer et ou gagner. Alors, sans plus de précision pour l'instant, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question?
C'est très amusant parce qu'une fois, j'ai fait un topo et j'avais mis comme titre « Faut-il être heureux pour être champion ?» D'accord. Et alors heureux, peut-être que le mot n'est pas tout à fait juste parce que elle correspond pas à la réalité de l'exigence du sport de très haut niveau. Donc être heureux tout le temps, ça me semble un petit peu compliqué. Mais moi j'aime à dire que la performance est le résultat d'une harmonie. C'est ce que j'observe depuis de nombreuses années. Plutôt que de chercher le Graal, qui est quand même difficilement atteignable parce que le sport de haut niveau est un lieu de haute turbulence émotionnelle, donc il faut plutôt apprendre à gérer ça. Chercher tout le temps le plaisir, comme je l'entends, fais-toi plaisir, etc., c'est un peu compliqué. C'est un monde exigeant, c'est un monde passionnant, riche d'enseignements, mais c'est aussi un monde qui nécessite un engagement, une détermination, tout un tas de choses et un vrai équilibre.
Alors vous avez tout à fait raison, parce que moi j'ai vécu ça pendant 15 ans. Et pour être un peu plus précis sur la question, je sais pertinemment, je connais la réponse. Bien entendu, plus on est heureux, si on est heureux, on est performant. Ça, c'est logique. Néanmoins, la vraie question, c'est comment être heureux? Comment on l'est? Et de tout temps, j'ai cherché à, justement, parfois je gagnais des matchs, est-ce que j'étais plus heureux? Non. Et le comment, c'était peut-être un travail sur moi, un travail sur plein de choses. Donc, est-ce que ça vous parle, ça? Comment devenir? Parce qu'on sait, on dit tous des faits en fin de compte. Mais il y a très peu de personnes qui arrivent à répondre à la question comment.
Alors, évidemment, parce qu'on n'a toujours pas la réponse, d'accord. Mais par contre, ce qu'on peut, là où on peut s'avancer, c'est qu'on constate que quand on est en équilibre dans sa vie, et je vais expliquer ce que j'entends par équilibre, à ce moment-là, on peut se retrouver dans des choses plus sereines et donc envisager d'être heureux. Donc, on a pour habitude d'envisager la performance que par une seule entrée, celle de la technique, de l'entraînement. Mais on s'adresse à des êtres humains quand on parle de football, de joueurs de football, et avant tout à des êtres humains. Et en dehors de leur vie professionnelle, ils ont aussi une vie privée, et puis ils ont aussi une histoire. Donc on va s'intéresser à tous ces paramètres, le contexte sportif évidemment, le coach, les partenaires, leur vie privée, et à partir de là, on peut construire quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui mette ce joueur en équilibre et qui va l'amener à pouvoir aller développer toutes ses compétences. Il est évident qu'à partir du moment où vous êtes en déséquilibre sur un des paramètres de votre environnement, le sport de très haut niveau est tellement exigeant qu'il peut mettre en péril cet équilibre et vous empêcher d'accéder à la très haute performance.
Alternative football.
J'ai joué 2 années en Turquie. À Beşiktaş. Et Beşiktaş, c'est un grand club turc. Et justement, on a été suivi pendant un mois et demi, en fin de compte, par un psychologue du sport. Et la première réunion qu'on fait, donc il y a des traducteurs parce que je ne comprends pas le turc, mais il pose une question et dit « Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes ici ?» Il n'y a personne qui lève la main. Personne. Ouais, on ne peut pas, ce n'est pas possible. On pensait que c'était une question piège, tu as un problème. Et il a dit « Super, vous êtes tous des fous. » Vous avez tous des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, comment vous faites ? Et il s'est assis devant nous. Il nous a dit, si vous n'avez pas de problème, dites-moi comment vous faites. Parce que moi, je suis psy. J'ai étudié ça toute ma vie et j'ai des problèmes que je résous. J'essaie de résoudre depuis X années. Et que j'arrive. Voilà. Et à partir de là, je me dis, mais oui, c'est vrai. J'ai des peurs, j'ai des craintes. Avant les matchs, je ne sais pas si je vais être bon ou pas bon. Et là, de suite, bon, on est en 2007. Donc, ça fait 4 ans ou 5 ans après, j'ai arrêté. Mais globalement, c'est à partir de là où je me suis dit, mais oui, Edouard. Même si tu sais comment jouer, à un moment donné, tu as des périodes de doute. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enlever ces périodes de doute, on peut faire ça, il y a un travail à faire. Et autour de nous, c'était tabou. Ça allait toujours tabou, d'ailleurs, parce que, regarde, 10 ans après, c'est toujours la même chose. Hein.
Parce que psychologue, en France, c'est un adjectif. Donc tout le monde est psychologue, je vais vous le dire, tout le monde. Moi, j'ai des collègues de partout, vous voyez, j'ai plus de 16 ans d'études, parce que je me casse la tête, comme le psy que vous avez rencontré, parce que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, nous, la moindre des choses, c'est de se former aux neurosciences, c'est d'essayer d'être au niveau, parce qu'on apprend plein de choses, c'est fascinant. Eux, ils savent tout, d'accord ? Parce que c'est un adjectif. Vous savez, psychologue, il suffit d'écouter. Hein, c'est tout. C'est juste à écouter. Si c'était le cas, je serais moins fatiguée le soir. Vous voyez, hein, c'est comme footballeur. Il faut juste taper dans la balle au prix où ils sont payés.
Ouais, ils peuvent courir.
C'est le même club. Ouais. Hein, nous, c'est pareil. Nous, on écoute. C'est tout ce qu'on fait. On n'a rien appris.
C'est facile.
De toute façon, va voir Myriam. Alors, en plus, on a des expressions. Ça, tu vas te vider, ça va te faire du bien. Vous voyez un peu la grossièreté de l'orientation.
Parle-en, comme si le fait de parler suffisait.
Oui, puis se vider. Vous voyez les mots qui sont utilisés.
Bien sûr. Ouais, c'est très péjoratif.
Là, j'ai eu quelqu'un, il me dit, oui, c'est juste des clés. J'ai dit, va voir un serrurier si c'est juste des clés. La psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Point. Ça s'apprend. C'est tout. C'est comme le football, ça s'apprend. Hein ? C'est pas parce que je tape dans un ballon comme ça que je sais jouer au football. C'est pas parce que j'écoute quelqu'un que je suis psychologue, vous voyez ? Chaque métier doit se respecter. La psychologie, c'est vaste, c'est grand. Ça, c'est pas uniquement fait pour traiter des problèmes. Et vous voyez le cliché ? Donc, c'est toujours péjoratif. Donc, effectivement, dans le monde des champions, dire « j'ai une faiblesse, mais je suis désolée », moi, les gens qui viennent me voir, c'est l'inverse. Ouais. C'est ceux qui sont courageux, qui disent « j'ai des problèmes, j'ai des limites, je veux devenir meilleur, je veux m'en sortir ». Donc, ceux qui passent la porte d'ici, c'est des gens extrêmement courageux. Je ne supporte pas qu'on parle d'eux comme ça.
Moi, quand j'ai aidé mes potes ou quoi que ce soit, j'ai désamorcé les choses en disant on s'est bien entraîné toute la semaine, donc obligation de moyens. Donc, après, ce qu'il arrive, on ne peut pas le maîtriser. On a une équipe en face, un adversaire. Donc, en fin de compte, obligation de moyens, mais pas de résultats. Mais quand on dit ça, dans le milieu du foot, général, c'est-à-dire même dans les médias, il n'est pas ambitieux. Ah non, on va gagner. C'est tellement facile de dire, ouais, on va gagner 3-0 ou ceci ou cela, que arriver à expliquer aux gens que je me donne les moyens d'arriver, mais tous les moyens, et après, advienne que pourra,
c'est ça.
Mais c'est ça la vérité. Et c'est
maman
ça,
m'a
la...
dit j'étais un loser parce que j'ai dit que, en fait, j'avais un discours de loser parce que je disais, bien sûr qu'on se prépare pour gagner. Vous ne croyez pas que je vais me préparer pour perdre, bien gagner quand même.
Vous êtes honnête.
Pas exagérer.
Non, il faut être honnête. Et vous étiez honnête. Et dire, bah, bien sûr, avec moi, vous bossez avec moi, vous allez gagner. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Non. Mais ça, c'est, après, c'est pour ça aussi qu'il est intéressant dans la société, faire changer un petit peu ce mode de pensée.
Mais c'est pas. Mais nous aussi, en France, on a un problème. Si on dit, j'ai envie de gagner, je veux gagner, ah, si on ne gagne pas, on est mort, hein, on est d'accord.
Donc, on ne dit rien, parce qu'on a peur.
Voilà.
Mais je veux gagner.
Mais si on n'a pas ça, je veux gagner. Je n'ai pas dit, on va gagner. On veut gagner. Donc, on met en place les choses, comme vous venez de dire, pour arriver à ce qu'on veut, à notre rêve, d'accord ? Maintenant, pour organiser ça, on sait qu'on peut perdre, hein, ou sinon ça veut dire qu'on a un melon comme ça, on est d'accord ? On sait qu'on peut perdre, on est d'accord ? On le sait, ça fait partie. Citez-moi l'équipe qui n'a jamais perdu, ou citez-moi le sportif qui n'a jamais perdu, ça n'existe pas. Moi, j'aime la réalité, d'accord ? Donc, si à chaque fois qu'on monte sur un terrain, on a peur de perdre, parce que chez nous, en France, en plus, on ne nous fait pas de cadeaux là-dessus, oui. Ben on n'y va pas. On rentre, on tremble. Si demain, on accompagne nos jeunes joueurs en leur disant ben, « t'as le droit de perdre, mais bien sûr qu'il faut que tu cherches à gagner ». Vous voyez la différence ? Vous voyez comment on les accompagne ? Déjà rien que ça. Ça, pour travailler ça, pour nettoyer le cerveau d'un footeux, pour lui dire... Il me regarde, il se dit, mais elle est complètement demeurée, elle connaît rien au foot. Non, mais elle comprend rien, elle sait pas comment on vit. Elle a pas compris. Mais si j'ai compris, alors, je dis pas que j'ai raison, mais j'ai compris que le cerveau fonctionne de cette façon-là, parce que je l'ai appris, et qu'en plus, je l'ai vu avec les gens dont je m'occupe, mais aussi sur moi-même. Voilà. Moi, quand je veux faire quelque chose, je fais du karaté, je me suis mis au karaté tard, parce que basket, tout ça, trop vieille, c'est fini. Ben, j'ai envie d'avoir ma ceinture noire. Donc, je fais pour avoir ma ceinture noire. Je ne sais pas combien de temps, mais je, voilà. Ben, on l'a. Je n'ai pas dit... on met en place les choses pour avoir ce qu'on veut. Mmh. D'accord ? Jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est important de le reprendre. Parce que quand vous dites, vous occupez de champion... Non, il y en a plein. Avant qu'ils soient champions, je les avais. Ils n'avaient rien. Non, je ne prends pas que des champions. Je prends
des
ceux
sportifs.
Qui ont envie, voilà, qui passent la porte. Enfin, maintenant, je peux prendre, mais je veux dire, qui passent la porte, qui ont envie de se battre. Moi, j'ai travaillé 20 ans.
Pour moi, c'est des champions, parce que ce n'est pas par les médailles, c'est par l'attitude. C'est pour ça que je disais ça.
C'est ça.
Pour ça, c'est par l'attitude que je disais.
Voilà. Voilà. Hein, parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Donc, ça voudrait dire que la psychologie fonctionne quand on a réussi déjà. Mais non,
ouais,
parfois, on est en galère. On pense pas. Et on va y arriver. On va cheminer ensemble et on va se battre. Et jusqu'à ce que... Il y a des sportifs, j'ai suivi, qui ont mis, pour certains, ou qui étaient complètement exclus d'équipe de France, etc., ils ont mis plus de 10 ans, mais ils l'ont eu, leur médaille. Ouais, vous voyez, ça me donne des frissons. C'est pour eux que ça me donne des frissons, parce que je me dis, tu vois, c'est admirable.
Ouais.
C'est des parcours remarquables. Puis d'autres, ils ont... pas une médaille, enfin des médailles importantes, je sais pas.
Ah ouais.
Oui, mais tout le parcours qu'ils ont fait,
et
ça vaut.
C'est pas. Dire qu'ils
vont rien. Voilà, c'est pour ça que moi je ne m'occupe pas que de prépa mentale. Je m'occupe de je parle d'accompagnement psychologique et pas uniquement de la performance. Je m'intéresse à l'homme et la femme qu'il y a derrière un joueur de football, pas seulement.
On n'est pas dans le ponctuel, on est dans le durable.
Oui.
Et donc foncièrement, quand on est dans le durable, on met beaucoup plus de temps à voir les résultats.
Oui.
Alternative football.
On va parler un peu d'ego, parce que l'ego, moi, on m'a toujours dit, c'est l'ego qui est le moteur, c'est l'ego qui aide. Est-ce que vous, l'ego, quand vous êtes en consultation avec un sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous faites avec l'ego ? Vous le gonflez, vous le dégonflez, vous le reboostez, vous le choyez ? Qu'est-ce qui se passe ?
Quand il y en a trop, j'ai pas besoin de faire grand-chose parce que la vie de footballeur va lui rappeler très rapidement que c'est pas comme ça.
Même si on lui a toujours dit qu'on vante très souvent les grandes stars, on dit « Ah, il a un gros ego. » C'est pour ça qu'il est là. Par contre, c'est l'ego aussi, et il a trop d'ego. en fonction du joueur, s'il est très fort ou pas moyen, on dit soit il a trop d'ego, soit il a heureusement de son ego. Donc c'est pour ça que l'ego.
C'est quoi la bonne dose d'ego en fait? Parce que j'imagine que. Enfin, j'imagine pas. Quand on est autant exposé, quand on a tant de responsabilités sportives avec ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'intérêt qu'on suscite chez les gens, forcément il faut de l'ego. Parce que c'est un moteur, mais en avoir trop entraîne vers la dérive. Et j'imagine que pour vous, trouver cet équilibre, ça doit être aussi un des. Ça doit être partie du
ce que vous recherchez. Du travail, de l'équilibre dont on parlait. Hein, il faut équilibrer. Et effectivement, parfois même, on peut avoir un ego tout à fait en équilibre, tout à fait performant, puis tout d'un coup, ça s'effondre. On est tout le temps en train de le travailler, l'estime de soi, la confiance en soi. Toutes ces questions-là sont des questions primordiales parce qu'elles sont tout le temps secouées, tout le temps mises à mal. Je parlais de violence tout à l'heure, c'est un milieu qui est très violent, il n'y a pas de cadeau. Ça peut même être cruel parfois, enfin voilà, c'est fantastique, mais c'est l'autre côté. Ce sont aussi. Qu'est-ce qui fait aussi cette dimension d'ego, c'est le fait que c'est avant tout, oui je sais, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent, oui je le sais, on me le dit à chaque fois, j'ai bien compris, je le sais, je ne suis pas stupide, mais c'est avant tout une histoire d'amour, hein, c'est une histoire de passion, ce ne sont pas des métiers où on peut s'engager à 50%, sa vie est construite autour de cette profession. Donc, au-delà des aspects financiers, il y a une histoire aussi personnelle. Un joueur de football qui est en difficulté, il le vit dans son âme, dans ses tripes, dans sa tête, partout en fait. Hein. C'est son identité. C'est pas un sport de loisir. Donc c'est pour cela que l'ego est souvent mis à mal, parce qu'il est secoué. Je parlais de haute turbulence émotionnelle constamment. Constamment remis en question sur ce qu'il est, sur ce qu'il peut faire, sur ses performances. Il n'y a jamais de moment de confort. Hein. Si, ça peut arriver quelques temps. Mais
oui, une victoire en Coupe du Monde, donc on est tranquille voilà, pendant les vacances. Et après,
puis il y a plein de choses qui arrivent dans la vie d'un sportif.
C'est ce qui use en fin de compte. On passe de, la fameuse maxime, on passe de héros à zéro en l'espace d'une semaine.
Tout à fait.
Et quand on a, tu as parlé de la Coupe du Monde, mais les mecs, en fin de compte, ils sont champions du monde pendant un mois en fin de compte.
Ouais, c'est ça.
Et après, de suite, ils sont dans leur club, ils font un mauvais match, ils se font tuer. Et nous, quand on était champions avec Marseille, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 17 ans. Donc, on a été porté au Graal pendant un mois. Et la reprise, donc un mois plus tard, on a fait deux défaites d'affilée. Et on était des moins que rien. Donc, au niveau de l'ego, ce n'est pas évident. Bon, moi, l'ego, je l'avais dégonflé depuis pas mal de temps. Hein, mais il y avait quand même toujours une part, parce que l'ego, il est toujours là.
Non, je
me réponds, là, je suis chez la psy, là, Mathieu.
Tu me sens bien, là. Tu génères chez moi beaucoup de questions que j'ai aussi envie de te poser à toi. Et ça revient à ce que tu avais demandé tout à l'heure, Myriam, sur. Il y a aussi forcément une différence entre l'approche psychologique individuelle et collective. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de vous dire, pour vous, vous travaillez avec un footballeur.
Oui.
Vous êtes dans un process, vous travaillez sur certaines choses, vous réglez des choses, mais c'est en silo, c'est avec lui. Mm-hmm. Quand on transpose ça et qu'il retourne dans l'équipe, comment ça se passe? C'est quoi la différence? Comment on peut garantir que ce qu'on a travaillé ensemble au contact de l'équipe, ça va se maintenir? Est-ce qu'il faut de fait essayer de le protéger de l'équipe? Enfin, cette mécanique entre individu et le collectif, comment on l'organise psychologiquement?
En fait, si on peut travailler avec toute l'équipe, évidemment que c'est mieux. Hein, on va plus vite. D'accord? Maintenant, moi, je prépare le joueur. D'accord? C'est pas nous qui allons changer l'équipe, c'est nous qui devons changer notre comportement pour que ça fonctionne. D'accord ? C'est pas en sens inverse. Donc, si je travaille pas avec l'équipe, je vais préparer le joueur à développer des compétences hein, qui s'appuient évidemment sur des connaissances, la connaissance de soi, mais aussi la connaissance du fonctionnement de son cerveau, la connaissance du fonctionnement aussi de l'équipe. On analyse, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? On sort on décortique, on analyse, on évalue. C'est un travail vraiment extrêmement précis qu'on fait. Hein. Et en fonction de ce qu'on va identifier qui pose souci à ce joueur, on va être obligé de développer des compétences pour qu'il puisse supporter ça, l'accepter, mais ensuite, en plus, le dépasser. Hein. Et qu'il soit, on est en équilibre, en harmonie, et qu'il soit heureux. C'est ça, en gros, l'idée. Hein. Donc, le travail psy, c'est pas juste écouter, on est d'accord, c'est développer des compétences. Moi, j'ai pour habitude de dire que le travail psy est au service du développement de l'intelligence. L'intelligence, la définition d'intelligence en psychologie, celle que j'aime bien parce qu'elle les raccourcit, c'est vrai que d'autres trouveront qu'elle n'est pas assez fournie, mais moi je l'aime bien, c'est la capacité d'adaptation à l'environnement. Donc la psychologie est au service de développer des capacités d'adaptation à l'environnement. Moi je ne peux pas changer le milieu du foot, hein, et je ne le changerai jamais, hein, d'accord ? Moi je n'ai pas les moyens, je n'ai pas cette prétention. J'ai l'humilité de penser, par contre, qu'en développant notre cerveau, en développant nos capacités, oui, oui, on peut y arriver. Et donc, c'est notre travail. Hein ? Mais ça, c'est mon travail.
Mais ouais, je vais plus loin. Vous dites que l'intelligence, donc, c'est la capacité à s'adapter.
Oui.
Quand on est footballeur, on va dire tous les 2-3 ans, on doit changer de club. Enfin, on doit changer, on change souvent de club. Oui. Donc, on doit s'adapter à des nouveaux coéquipiers, une méthode de travail et des environnements. Je vais pousser le trait un peu plus loin. Est-ce à dire que le foot, finalement, c'est un milieu d'intello ? Est-ce... Donc, du coup...
On ne va pas dire d'intello, parce que l'intello, c'est une...
Mais
c'est un milieu d'intelligence, on veut pas, de très
On ne veut pas rentrer dans ce débat-là, on non, est
mais,
au-dessus de tout ça.
Non,
donc,
parce
qu'il
y a des... En fait, pardon de couper la parole, je suis désolée. Pardon.
Non, il n'y a pas de souci.
En fait, oui, il y a différentes formes d'intelligence. Donc, évidemment qu'il y a des intellos chez les footballeurs, évidemment. Mais celle dont je parle, là, c'est, on parle plus d'intelligence émotionnelle. Bien sûr que ça s'appuie aussi sur l'intelligence intellectuelle. Hein. Il faut quand même comprendre qu'un footballeur, quand on lui parle technique, c'est extrêmement complexe, hein, d'accord, hein. Donc, il fait appel aussi à son intellect, on est d'accord. C'est pas, on peut pas, moi, personnellement, quand on m'explique des choses en football, quand je comprends rien. Ouais. Hein, je suis obligée de faire répéter parce que moi je vais pas comprendre. Et je suis censée être une intello. Je suis censée, d'accord. Donc c'est aussi cette partie-là. On va dire que plusieurs intelligences se chevauchent pour former un footballeur de très haut niveau. Et qu'il y a aussi l'intelligence psychomotrice. Vous avez vu ce qu'un footballeur est capable de faire. C'est pas à vous, je vais l'expliquer.
Non.
Oui. Eh bien, il y en a peu qui sont capables de faire ça.
C'était pour...
Capable d'apprendre vite, d'exécuter vite, de répéter vite et longtemps et dans la durée. Bah, c'est de l'intelligence, je suis désolée.
À haute vitesse, à haute intensité.
Myriam, vous avez dit quelque chose qui je trouve très intéressant, c'est que c'est un métier et j'ai envie de pousser ça, l'équipe de foot, et l'analogie entre le métier classique qui peut être le mien. Moi, je travaille dans un bureau, j'ai des équipes, etc. Et une équipe de foot, c'est différents types de profils, avec une inégalité vis-à-vis de l'intelligence qu'on va retrouver dans une équipe de foot comme on va la retrouver dans les bureaux, une inégalité face à l'éducation qu'on va retrouver dans des bureaux qu'on retrouve. Enfin, je pense que les gens ont une perception différente parce que les footballeurs sont exposés. Moi, si on me tend un micro demain et qu'on me demande de parler de mes performances commerciales sur le dernier trimestre, je suis pas sûr que, parce que ce jour-là, je suis pas bien, je vais pas bafouiller ou je vais pas dire une énormité. Et je pense que c'est le spectre avec lequel on regarde le football et la loupe qui est déformante, en fait. Mais en termes de profil, il y a pas...
Mais l'intelligence, vous pouvez être brillantissime et bafouiller.
Bien sûr.
Alors, par contre, je vais juste corriger un petit peu ce que vous avez dit. C'est que, non, au très très haut niveau... Ce sont tous des surdoués, hein, d'accord ?
Ouais.
Ok.
Merci.
Point.
Tu vois, je suis un génie.
Ce sont tous des surdoués.
J'en ai jamais douté.
C'est pas. Enfin voilà. Aujourd'hui, je le dis sans aucun. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais ils ont le droit. Hein. Ce que je dis, je l'ai constaté parce que j'ai pas lu dans les livres. Je reçois toute la journée des athlètes de haut et très haut niveau, et je fais la différence entre les athlètes de haut niveau et très haut niveau. Mais c'est pas péjoratif, pas du tout. Ceux qui sont au niveau, plus ils développent. Donc le sport est au service du développement de l'intelligence. Hein, d'accord ? Donc, par contre, au très haut niveau, non, ce sont des surdoués. D'accord ? Alors, il ne faut pas confondre très grand talent et surdoué, simplement physique. Là, très haut niveau, ceux qui s'y tiennent, hein, pas juste une saison, oui, ce sont des gens qui ont des capacités hors normes, à tous les niveaux, pas seulement sur le plan physique. Hein. Donc, ça, c'est important à rappeler. Après, plus on descend, plus on va trouver, comme vous dites, plein de formes d'intelligence, mais il n'y a aucun péjoratif, c'est comme ça. Enfin, voilà. Alors, c'est la vie, il faut arrêter d'être dans la démagogie, c'est comme
autant
ça.
Autant nous, on essaye à nos différents niveaux de parler, de dire que, attention, les footballeurs, on n'est pas des teubés. Donc moi, dans ma vie, là, avec ce podcast, on essaie d'expliquer que le football ne se joue pas seulement qu'avec les pieds, et aussi la tête, donc de facto.
Principalement parce que c'est la tête qui fait bouger vos pieds.
Ça fait du bien de le dire et de le redire. Mais vous aussi, comment vous êtes perçu, en fin de compte, psychologue du sport? Quand vous avez dit psychologue, c'est un adjectif. Sport, bon, on a bien compris que c'est en France, c'est moyen. Donc psychologue du sport. Alors ouais. Voilà.
Voilà. Je finis pas là.
C'est fou, hein. C'est un peu comme les profs de sport. Dans la cour de récré, les profs de sport, ils sont pas où dans la.
Il y a tout de suite, penses à.
Ouais, c'est péjoratif.
Mais ça, je pense que ça a très. Enfin, c'est très. Je reviens à ce que vous disiez au début, même. Je trouve ça. Très français, c'est-à-dire qu'il y a un rapport culturel et intellectuel en France au sport qui est un peu beaufisant, c'est-à-dire que ceux qui réussissent dans le sport sont ceux qui n'ont pas les capacités pour réussir ailleurs. Et c'est des choses qu'on retrouve beaucoup moins dans certaines cultures. Moi, j'ai vécu longtemps en Angleterre, et typiquement, les Anglais, voire les Américains, qui sont des gens avec qui je travaille beaucoup, ils ont un rapport à la psychologie, à la liberté d'en parler, notamment chez les sportifs professionnels. On a les sportifs qui écrivent des livres, qui parlent de leur dépression. Je pense à Tyson Fury récemment, qui est un boxeur. On a l'impression qu'il y a un poids culturel en France autour de ça qui est très particulier.
Oui, tout à fait. On est très en retard, nous, hein, à tout, pas que dans le foot.
Ouais.
Hein.
Ouais, ouais.
On est très en retard, et puis il y a toujours cette vision très péjorative de la psychologie parce que les gens ne connaissent pas. Vous voyez, ça me fait toujours rire. Vous voyez, les gens disent c'est abstrait. Hein. Mmh. Alors moi, quand je vois une passe de foot, hein, c'est abstrait. Ouais. Je pourrais dire c'est abstrait. Non, c'est pas abstrait.
Ouais.
C'est je ne connais pas. Je suis incompétente. C'est pas pareil.
Comment il
l'abstraction est définie par quelque chose.
Par le contexte.
Parce qu'on connaît pas. Mais non, c'est pas abstrait. Quand un joueur de foot est en difficulté, blessé, etc., je vois pas ce qui est abstrait quand il commence à présenter un épisode dépressif parce que ça fait 2 ans qu'il revient pas. Je vois pas ce qu'il y a d'abstrait, moi. C'est très concret, en fait. Puis moi, j'aime les choses concrètes. Hein. Donc, oui, avant de faire psycho, j'hésitais entre maths sup et psycho parce qu'il y a une logique. D'accord? Il y a une logique. Hein. Donc, en fait, c'est aussi là où on se perd aussi dans ce milieu-là. Hein. On confond tout, on mélange tout, on confond les mots, on confond... Et on est un pays extrêmement à visée intellectuelle. Enfin bon, ouais. Et c'est magnifique. Hein. On a quand même de très grands auteurs, on bien a sûr. Quand même rayonné... Enfin, c'est
très riche culturellement, bien sûr. Oui.
Et jusqu'à maintenant. Hein, on n'est pas... nous, Français, on peut dire sans prétention qu'on... On cherche quand même à comprendre. On n'est pas des gens superficiels. On a une vraie culture. On a une vraie empreinte dans le monde. Enfin bon. Donc ça, on ne revient pas là-dessus. Pas de souci sur le fait d'être en France. Mais sur le plan sportif, on est en retard, tout simplement. On n'a pas de culture sportive. Le sport n'est pas valorisé. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance d'être dans la première école sport-études. Cette école a été fermée. Pourquoi ? On ne sait pas, puisque... Nous avions d'excellents résultats sur le plan scolaire et qu'en plus, on se développait sur le plan physique et que c'était d'ailleurs au service du plan scolaire. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Alors, ne parlons pas de la psychologie. Hein. Je veux dire, c'est... voilà. Donc, je pense qu'il faut revenir à notre culture.
Vous avez parlé de vision du sport. Et on est un pays à visée intellectuelle. Et je crois que c'est vrai parce que j'ai une anecdote sur Ronaldinho à l'époque. On est en 2001, j'amène mon petit-neveu à l'entraînement, qui a 4-5 ans, et Ronnie, de suite, il lui donne un ballon. Et mon petit-neveu, il commence à faire des jongles. Et il me dit, super, il va faire du foot. Je dis, bah, attends, il est trop jeune et tout ça. Et il m'explique, au Brésil, comment ça se passe. Il me dit, au Brésil, tu sais, quand l'enfant a 4 ans, on lui donne un ballon dans les pieds, s'il sait jongler, on lui dit, tu feras du foot. Et s'il ne sait pas jongler, on dit, c'est pas grave, tu feras des études. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc c'est carrément inversé. Et en Angleterre aussi.
C'est pas grave, tu feras des études.
C'est pas grave, tu feras des études.
C'est incroyable.
Et ouais, et c'est vrai que quand t'es au Brésil, quand t'es footballeur, je peux te dire que t'es le dieu. Quoi.
Ouais,
et dans d'autres pays, j'ai joué en Turquie.
Socialement,
le statut du footballeur, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que t'es footballeur. Quoi. Ouais. Donc par contre, t'as une grosse pression. D'ailleurs, qu'attention. T'as le chef d'entreprise et tout, il aurait qu'une envie, c'est il voulait être à ta place, mais il a pas pu. parce qu'il n'était pas suffisamment bon. Tu vois, et donc, il y a ça. Et en France, c'est... Oh.
Ouais,
ils se le disent à demi-mot, c'est vrai, il y a des personnes qui le disent à demi-mot. Je vous ai dit que vous étiez une très bonne avocate, mais parce que vous défendez bien les joueurs. Et moi, très souvent, je sais pertinemment que quand on essaie de défendre et parfois de convaincre la personne en face, enfin même parfois on justifie, donc on a l'impression qu'on essaie de convaincre la personne, c'est très difficile. Donc moi, ce que je disais, tu sais, quand, moi, ce que je suis footballeur, mais je suis comme toi. C'est-à-dire que ça fait 3 matchs que je ne suis pas bon. Je ne suis pas bien, je ne joue pas. Toi, c'est quoi ton boulot? Il me dit, bah, moi, je suis, je sais pas moi, il peut être commercial. Donc, tu as des bonus à la fin si tu arrives à vendre tant de marchandises. Bah ouais, il t'arrive de temps en temps à pas vendre le nombre qu'il faut. Ouais, donc c'est la même chose. Tu fais, tu veux, mais tu n'y arrives pas. Tu vois, et c'est exactement la même chose. Autre point aussi, très souvent, je dis, tu sais, c'est dur d'être footballeur parce que tu es tout le temps critiqué. Positif ou négatif, ok? Je dis, toi, quand tu as ta journée de travail, tu es plombier ou quoi, ou casse, hein. T'as fait une connerie, t'as fait une bourde, tu rentres chez toi, pouf, la bourde elle est derrière toi. T'as pas.
Une de l'équipe.
Ouais, t'es pas. Ouais, l'équipe, ouais. T'as pas la radio, t'as pas les émissions de télé qui sont là à rabâcher. Ouais. Donc j'essaie juste de l'expliquer. Toi comme moi, elle est compliquée ta vie, sauf que la mienne elle est publique. Donc foncièrement, c'est parfois, c'est on a le droit aussi. Tu vois, on a le droit à ce que ce soit dur.
Peu d'humanité.
Bon. Ouais, un peu d'humanité, on a les mêmes.
Et un peu d'intelligence.
Mais c'est un peu ça. Hein?
Simplement, on ne se met pas à l'envers. Un joueur qui ne joue pas, qui est en difficulté, qui ne performe pas, c'est qu'il est en difficulté, point barre. Donc l'idée, on revient sur le système, on essaye de comprendre, de donner du sens, on va l'accompagner, il va repartir. Mmh. Voilà.
C'est pour ça
qu'il attend que ça, le joueur. Bah,
c'est
hein,
ça. C'est
qu'on
ça.
L'aide, c'est tout.
C'est que le joueur qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, je ne dis pas que je suis blessé, ou je ne dis pas... Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit? Enfin, c'est quoi sans dévoiler, bien sûr...
Non, mais je ne dévoile pas.
Qu'est-ce qu'on dit à ce jeune qui ne veut pas dire qu'il s'est blessé parce qu'il y a la pression sociale, il y a la concurrence dans le club, il y a le fait de potentiellement rater le wagon, de ne pas être titulaire. Comment on lui parle?
Bah comme je l'ai dit, on essaie de comprendre d'abord, les blessures, elles n'arrivent jamais par hasard. Je ne fais pas de la psychologie de hasard, il y a un contexte. Très souvent, elles sont liées à la fatigue. Alors donc, on revoit l'entraînement, comment il s'engage à l'entraînement. Est-ce qu'il n'en fait pas trop ou pas assez? Je vais prendre des exemples concrets, pas assez d'étirements. Il en met trop à l'entraînement, donc il arrive, il est cuit. Hein, et du coup, il va se blesser parce qu'il a fragilisé son corps. Hein. Plus on est athlète de haut niveau, et plus on a envie d'aller loin. Et un athlète de haut niveau est toujours à la limite de la rupture, parce qu'il doit dépasser, il doit se dépasser pour faire une performance. Donc il devient à la fois plus fort et plus fragile en même temps. S'il pousse trop son corps, s'il pousse trop loin, il risque de se blesser. S'il ne pousse pas assez loin, il ne sera pas performant. Donc il faut trouver cet équilibre. Là aussi, on est dans l'équilibre, le bon dosage. C'est loin d'être facile hein, à trouver. Donc on apprend ça ensemble. Évidemment, un joueur à qui je dis ça, dans un premier temps, il a peur, parce qu'il dit « Attends, si je ne pousse pas, ça ne veut pas le faire, en fait. Hein. » Elle ne se rend pas compte, en gros. Mais si, parce que nous, on travaille dans le temps. D'accord ? Même s'il ne joue pas tout de suite, maintenant... Il va jouer. Alors évidemment, on n'a pas 10 ans devant nous pour construire ça. Mais moi, je le répète, j'ai affaire à des gens qui sont intelligents. Je n'ai pas affaire à des gens stupides. Et en plus, ils sont courageux, parce que ce n'est pas évident de pouvoir, par exemple, réduire en intensité, en sachant que son coach va voir qu'il a réduit en intensité, ou qu'à l'entraînement, il ne fait pas exactement tout ce qu'on demande. Donc il va falloir qu'il se batte. Parce que quand il ne le fait pas, il sait pourquoi il ne le fait pas. Hein, c'est pas parce qu'il veut en faire moins, lui, il attend qu'une chose, c'est tout lâcher. Mais il sait qu'il peut pas le faire parce que là, il vient de ressentir une tension, ou il vient de ressentir, et que ça risque de péter. Donc, on apprend à bien se comprendre, à bien connaître aussi son corps. Hein. Et ensuite, on peut tout à fait aller voir son coach, évidemment, si on a en face de nous quelqu'un qui a possibilité de dialogue, hein, d'accord, et lui dire, voilà, je sens une pointe ou un truc, j'aimerais bien faire autre chose plutôt que de... Donc, pour montrer au coach ou à l'encadrement technique qu'on n'est pas là pour feignanter, mais que là, on a un problème et qu'on est prêt à travailler sans accentuer le problème. Parce que c'est l'intérêt aussi du coach d'écouter l'athlète. Parce que s'il perd un athlète dont il a besoin pendant 6 mois ou si c'est 48 heures, ce n'est pas la même chose pour son équipe. Donc, c'est aussi l'intérêt du coach d'écouter. On a fait du mot « s'écouter » quelque chose de péjoratif. Hein, faut pas s'écouter. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Il faut s'écouter, non pas pour feignanter, mais pour bien comprendre et pas faire d'erreurs.
Et être capable de performer.
Voilà. Et ça, c'est l'intelligence aussi.
Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est, je pense, le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire que, est-ce que l'un des angles pour un petit peu, justement, populariser la psychologie auprès des footballeurs, c'est pas l'entraîneur, et c'est pas d'accompagner ce mec-là, parce qu'il est responsable de 25 personnes.
Ouais, il a pas le temps.
Il
doit s'accompagner lui déjà.
Ouais, c'est ça. Donc
est-ce qu'il est suivi déjà? Est-ce qu'un entraîneur pourrait être suivi quand même?
Est-ce que l'entraîneur, ce serait même pas l'angle par lequel on pourrait prendre le football entre guillemets d'un point de vue psychologique et dire on va d'abord travailler avec ces mecs-là parce que ils seront mieux. Déjà parce qu'ils ont, comme tu l'as dit, comme tout le monde, leurs problèmes.
Puis c'est des managers, ils doivent gérer 25
mecs. Ils doivent gérer 25 mecs qui ils ont, comme les footballeurs, les spotlights, la moindre erreur à disséquer. Donc je pense que ce rôle-là, il doit être intéressant à travailler.
Ça a été aussi ma revendication. Ouais. Les coachs, c'est très difficile d'être coach. Hein. Ouais. Très, très dur. Hein. Ils doivent avoir des résultats tout de suite. Ils doivent, eux aussi, ils s'en prennent plein la tête.
Ouais, ouais, ouais.
Ils doivent manager des hommes. C'est pas aussi simple, avec évidemment de fortes personnalités. Moi, j'adore les fortes personnalités, mais je sais ce que ça me prend comme énergie. Hein,
oui,
parce
c'est
que
vrai.
Je m'en occupe. Hein. Ouais. Donc, évidemment, tout ça, ça paraît comme ça assez simple, mais être coach, ce n'est pas juste envoyer de la technique comme ça. Hein. C'est aussi une relation humaine et on les laisse se débrouiller tout seuls. Hein.
Ouais.
Donc, on a des gens, on les laisse dans un métier qui est extrêmement complexe.
Non, mais c'est vrai en plus.
Et on les laisse comme ça.
Allez hop.
Ouais. Débrouille-toi. Sans formation de management, ou de psychologie, etc. Donc pareil, on ne va pas tomber sur le dos des coachs non plus.
Mmh. C'est compliqué.
D'abord, on doit tomber sur le dos de personne. Ouais. On doit plutôt chercher ce qu'on doit faire pour améliorer notre football français, c'est tout. Mmh. Voilà ce qu'on doit chercher.
Pour vous, ce serait quoi un sportif heureux?
Ben, quelqu'un qui se sent en harmonie avec lui-même et aussi dans son environnement, c'est-à-dire qui se sente bien, ça ne veut pas dire nécessairement toujours performant, mais qui, vous savez, souvent on me dit, mais tu réconfortes, qu'est-ce que vous faites pour réconforter vos athlètes? Mais mes athlètes, je ne vais pas les réconforter, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin d'une nounou qui leur tape dans le dos en disant, t'inquiète, ça va aller, mais personne ne va me croire.
Ouais.
Je ne suis pas crédible en disant ça. Ouais. Ce qui réconforte un athlète, c'est de comprendre. Ça va le mettre heureux. Il va dire, je sais, d'accord.
Je sais pourquoi.
Je sais où s'est passée l'erreur, donc je vais le reprendre et je repars. Ça apaise. On est plus serein. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, là, on est angoissé. On ne sait pas. Donc, on refait toujours la même chose parce qu'on ne sait pas où aller. Ce qui va apaiser et construire un athlète, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est j'ai été nul. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne me suis pas donné? J'aurais dû faire ça. Mais non, si tu ne l'as pas fait, ce que je leur dis, c'est que tu n'es pas capable de le faire. Donc nous, on doit comprendre pourquoi tu n'as pas été capable. Et il ne faut pas avoir peur de dire je ne suis pas capable. Ce dont il faut avoir peur, c'est de ne pas se donner les moyens d'être capable. Ça, il faut en avoir peur. Mais pas être capable, bah oui, on va grandir, on va apprendre. C'est en passant par ces chemins-là qu'on apprend. C'est parce qu'on n'avait pas été capable qu'on a appris. Donc l'idée, c'est ça.
La compréhension, c'est essentiel. Comprendre.
Le travail, il passe par là. Ouais, première chose, on essaye de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Comprendre, et c'est la base, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que très souvent, il y avait des joueurs qui me disaient « Tiens, Edouard, aujourd'hui, j'espère que je vais être bon. » Moi, cette phrase, elle me « Aujourd'hui, j'espère que je vais être bon. »
Comment ça t'espère?
C'est violent quand même. Ouais. Ça veut dire qu'il ne sait pas quand il va débuter le match, s'il va être bon ou pas. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas quels sont les ingrédients qu'il doit mettre en place, qu'il doit aller chercher pour être performant.
C'est ça. Exactement.
Bah, moi, je n'étais pas rassuré. Hein. Donc j'ai dit, si, ça va aller. On va être bon, on a bien bossé. C'est pour ça que je disais, on a bien bossé, regarde les déplacements de cette semaine, ça s'est passé comme ça. Mais parce que ça fait flipper. C'est-à-dire, c'est à pile ou face.
Bah, c'est très angoissant.
Tu commences un match,
c'est très angoissant.
Et il y en a pas mal, les joueurs qui disent, putain, j'espère que je vais faire un bon match.
Quand on a préparé ce podcast, j'ai essayé de réfléchir à des exemples où la psychologie a fait la différence. Et alors, peut-être parce que je manque de culture footballistique ou peut-être que tu as d'autres exemples, mais pour moi, la chose, c'est aussi parce que peut-être je suis supporter du PSG, mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit d'une implication, d'un élément psychologique qui aurait permis la performance et la victoire derrière, c'est Yannick Noah qui vient aider le PSG en 96. Donc, simplement pour replacer le contexte, en 96, le PSG fait une belle saison. Ils commencent très bien le championnat. Ils font un très beau parcours européen également. Ça se passe beaucoup moins bien en championnat sur la deuxième partie de saison. Mais ils arrivent en finale de la Coupe des Coupes pour ce qui serait leur premier titre européen. Et quelques semaines avant, tu me corrigeras peut-être, mais je crois que c'est les dirigeants du Paris Saint-Germain et principalement le président décident d'accoler à Luis Fernandez Yannick Noah dans un rôle. Je ne sais pas quelle est la définition du rôle clairement, mais en tout cas pour aider le groupe. Et les retours qu'on a, que ce soit des reportages, de discuter avec les joueurs de cette époque-là, c'est de dire, mais le rôle de Yannick, c'était de parler avec les joueurs, de les emmener, de les faire sortir. Toi, tu as certainement joué avec certains joueurs qui en plus étaient là à cette époque. Ma question, s'il y a une question derrière ça, c'est est-ce que le bien-être psychologique, finalement, il n'est pas seulement garant d'un spécialiste comme vous, d'un psychologue, mais est-ce qu'il peut être apporté par quelqu'un dont ce n'est pas le métier et qui, de par son attitude ou de par sa présence, permet d'atteindre un état psychologique heureux sur le court terme, comme c'est le cas pour le Paris Saint-Germain, ou sur le plus long terme?
D'accord. Alors, moi, je n'irai pas aussi vite, hein, pour les raisons qu'on a évoquées. Pour moi, c'est une formation. C'est comme un. Je veux dire, effectivement, on peut avoir un footballeur amateur qui a une belle vision, hein, une belle intuition, beaucoup d'intelligence, mais pour autant, il n'a pas toutes les compétences pour pouvoir entraîner. On est d'accord. Pour moi, un entraîneur, c'est quelqu'un qui est formé. Quand il a été footballeur avant, bah, c'est encore mieux. Hein, s'il ne reste pas footballeur toute sa vie, hein, c'est encore mieux parce qu'il passe dans le rôle de coach. Hein, et que ça fait... Là, vraiment, on a la totale. Il sait ce que c'est de jouer au football, d'être joueur, et en même temps, il s'est formé. Donc moi, j'aime bien que les choses soient... Bon. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose. Hein, par leur présence, par le réconfort dont on parlait, par le soutien. Hein. Quand on travaille sur le plan psy, on développe des compétences qui perdurent. C'est ça l'idée. Hein. Il faut que l'athlète soit autonome après. Moi, c'est mon objectif. Moi, quand je vois qu'il se débrouille tout seul, franchement, c'est un bonheur. Enfin, je sais pas, vous êtes coach, hein, oui. Je sais pas, vous accompagnez. Quand vous les voyez se débrouiller tout seul sur le terrain parce que vous avez passé...
L'idée, c'est l'autonomie.
Mais oui, ouais, on est content. On est, enfin, plutôt que d'être là tout le temps.
Ce serait, hein, problématique.
Pour leur dire ce, ouais, qu'il faut,
on,
faire.
On n'est pas des bêtises. Hein.
Et la présence, donc, n'est pas suffisante si on veut construire ces joueurs. Hein. Si on veut vraiment faire perdurer la notion d'excellence, la notion de performance. Et la psychologie, c'est un peu plus complexe que simplement une présence. Je n'ai pas dit qu'il ne servait à rien, la preuve. Hein. Mais attention à ce piège, ouais, en psychologie.
Vous avez tout à fait raison. Et pour être plus dans les détails, Yannick est arrivé à une période particulière, c'est-à-dire c'est pour la finale, préparer la finale. Dans l'équipe, il y avait des grosses tensions entre notamment Luis et certains de ses joueurs. Et donc, et c'est pas les dirigeants qui ont demandé à Yannick de venir, c'est les joueurs qui étaient potes avec certains joueurs. Cadre qui était pote avec Yannick. Et Yannick a dit, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux venir.
Je passe.
Il avait fait... ouais, c'est un peu en mode comme ça, vu qu'il avait fait la Coupe Davis, il avait gagné la Coupe Davis, et Saga Africa et tout ça. Donc, les gars, je viens 3-4 jours. Vous êtes tous en stage, je viens 3-4 jours, on va s'éclater et tout ça, en mode cool, et c'est ponctuel. Et ça, c'est propice pour une finale, parce que c'est ponctuel. Et ils ont gagné, c'est magnifique. Ouais. Mais effectivement, je pense que le bien-être, c'est important, mais après, il y a...
Le bien-être, c'est le bien-être du moment, c'est pas effectivement l'accompagnement psychologique, comme on le disait.
Et après, par rapport à ton exemple qui est particulier, c'est-à-dire que Yannick aussi s'est aussi formé, donc il est c'est particulier. C'est un truc particulier, mais c'est juste le bien-être, tu vois, comme ça, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, Yannick, il a réussi beaucoup d'autres trucs après, donc c'est dire qu'il y a quand même, il a quelque chose, une petite fibre, le bien-être, il est dans le yoga et tout ça, quoi. Donc.
Mais voilà, c'est ça. Mais en fait, après aussi, il faut faire attention à ça, hein, parce qu'on va vite se retrouver sinon avec, ça existe déjà, hein, des gens qui s'improvisent, qui pensent qu'ils ont les compétences. Dès qu'on s'improvise dans un métier, je dis pas qu'on peut pas apporter quelque chose, pas du tout, hein, je dis pas ça. Moi, je pense plutôt, et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il est plus intéressant de former les coachs, et pour le faire, merci, c'est gentil, pour le faire. Moi, j'accompagne des coachs et je peux vous assurer que lorsque ils ont... Moi, je ne fais pas des formations théoriques, c'est des formations pratiques. D'accord. Tu rencontres quel souci, ok, et on répond aux questions. C'est comme des cas concrets qu'à chaque fois, on va résoudre par rapport à ce qu'est le coach, sa sensibilité, sa personnalité. Chacun est différent. Tout à l'heure, Edouard dit « Moi, j'aime pas le rêve. » Ben, moi, je n'ai pas l'obligé. Écoutez, un rêve. Moi, ça me parle, mais lui, ça ne lui parle pas. Ouais. Non, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Donc, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, à son sport, etc. Je peux vous assurer que les résultats qu'on obtient quand les coachs sont formés, c'est impressionnant. Parce qu'eux aussi, ils sont passionnés, sont investis, sont engagés. Et ils sont loin d'être stupides. Hein. Donc, si on arrive à faire passer ces messages-là, à former... D'abord, ils sont mieux, eux. Puis, ils sont mieux avec leur équipe. Les joueurs sont mieux avec eux. Enfin, c'est quand même... Combien de fois j'ai entendu... Mais maintenant, on peut se parler, les progrès qu'il a fait. Mais en fait, ils attendent que ça, qu'on leur montre le chemin. Je ne dis pas qu'il y a quelques irréductibles, hein, ça existe, qui ne seront jamais ouverts, mais la plupart, dès qu'ils commencent à comprendre ce que la psychologie peut leur apporter, mais bien sûr qu'ils ouvrent, ils savent bien que c'est de leur intérêt. D'accord ? Mais encore faut-il qu'ils arrivent, cet accompagnement psy soit. Qu'on lui ouvre la porte. Hein. C'est ça. Et donc. Plutôt que de chercher des personnes comme ça, qui peuvent ponctuellement... Je ne dis pas que Yannick saupoudre, hein, je n'ai pas dit ça, hein, mais que ça soit du saupoudrage, qu'on construise quelque chose de concret avec des professionnels, en sachant qu'évidemment, ce n'est pas que les professionnels en psychologie qui peuvent amener du bien-être, on est bien d'accord, mais les coachs aussi peuvent amener du bien-être, un kiné, un médecin. Mais là, on parle d'une profession et on parle de quelque chose de précis. Hein,
voilà. Ouais, il faut structurer les clubs. Il faut structurer les clubs. C'est pour ça qu'en préambule...
Avec des gens dont c'est le métier, c'est ça c'est...
Ouais,
c'est...
Chacun a son métier. Voilà.
Et faire
psychologue, il ne fera rien d'autre que son métier.
Et ouais, mais juste reconnaître que la psychologie a son rôle et sa place dans un club de football.
Vous vous rendez compte, la absurdité ? On s'occupe de cerveau humain, d'accord ? On s'occupe d'humain et on considère que la psychologie n'a pas sa place. Vous vous rendez compte ?
Ouais, c'est
le paradoxe c'est dans lequel on est.
Mais ça va changer, on est en train de faire changer les choses, Marianne.
Yes.
on espère que ça va.
Ouais, déjà, tu sais, les plus longues marches commencent toujours par un pas. Et ben, ce podcast, c'est un pas.
C'est vrai.
C'est le premier pas.
Je trouve que c'est une très belle manière de le dire.
Ouais, c'est pas de moi, j'ai cité, mais je me rappelle plus.
Mais c'est bien de s'en rappeler.
Alternative football.
Myriam, avant de vous reposer la question sur laquelle on avait ouvert, j'avais moi encore une ou deux questions que j'avais vraiment envie de vous poser. Si je ne me trompe pas, vous êtes aussi spécialisée dans l'addictologie.
J'ai longtemps travaillé sur la question d'addiction. J'ai dirigé 3 centres de soins à Paris, équipe de prévention.
Ouais, donc ça va en
avoir. J'ai travaillé aussi en Seine-Saint-Denis pendant des années auprès des usagers de drogue, etc.
D'accord.
Travaillé sur le sida. Ouais.
Donc,
même temps que j'étais dans le milieu sportif.
C'est ça. Voilà. Mais du coup, ma question va être un petit peu entre guillemets facile. Mais est-ce que du coup, on est addict à la victoire, on est addict au bonheur, et est-ce que chez les grands sportifs, chez les très grands, chez ces surdoués-là, la victoire, ce besoin de gagner, est une addiction ?
Alors. Évidemment, moi, je vais vous parler en tant que... c'est pas du langage commun. L'addiction, ça a un effet délétère, d'accord ? Ça atteint la santé, c'est ça le souci. Donc, moi, je pourrais pas dire qu'ils sont addicts. Évidemment qu'il y en a qui le sont, mais à ce moment-là, ça atteint leur santé, ils restent pas longtemps.
Donc, c'est pas un...
Mais souvent, on l'entend. Ou alors, les sportifs sont masos. C'est complètement faux. S'ils se font mal, c'est pas pour... Le masochiste, c'est quelqu'un qui se fait mal parce qu'il a du plaisir dans la souffrance. Le sportif de haut niveau, quand il se fait mal, c'est pour progresser, ça n'a rien à voir. Sinon, il se fait pas mal, hein. D'accord ? Eh bien, l'addiction, il faut toujours avoir en tête, c'est néfaste pour la santé. Donc, si quelqu'un est addict, au bout d'un moment, il va pas pouvoir tenir longtemps, en fait.
Donc, hein, c'est banalisation.
Parce qu'il va aller beaucoup trop loin, chaque fois. Donc, il va s'effondrer. Donc c'est toujours l'équilibre. On revient à la notion d'équilibre, en fait.
Non, c'est très intéressant. Et puis je pense que ça permet aussi d'avoir évoqué ce terme-là, de pas banaliser n'importe quel terme, notamment les termes médicaux. Et ça m'amène sur une autre banalisation un petit peu de termes qui, je pense, devrait être un peu plus spécifique. C'est que on parle souvent du fait que le cerveau, c'est un muscle, alors que factuellement, le cerveau n'est pas un muscle.
Mais je pense que ce qu'on essaye de dire quand on emploie cette expression, c'est de dire que si on entraîne le cerveau à fonctionner d'une certaine manière, à s'habituer à un certain état, il va être capable de répéter cet état psychologique comme un muscle répète un mouvement. Ça, est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est le cas?
Bien sûr, il y a des études, des publications scientifiques. On a fait des images de cerveaux de sportifs de très haut niveau. Et on voit, par rapport à d'autres cerveaux, que certaines zones s'activent, alors que ça n'active pas dans d'autres cerveaux. Donc ça veut dire que tous ces gestes répétés sont complètement enregistrés dans votre cerveau. Ça crée des connexions synaptiques, en fait. Des zones qui vont s'activer, alors que d'autres, non. Évidemment, tout, c'est pour ça. Vous voyez l'aberration de ne pas s'occuper du cerveau, de la tête des athlètes? En fait, c'est le centre de commande. C'est ce qui commande vos bras, vos... Et évidemment, ils développent des compétences. Donc ils ont des compétences, ok, mais là, ce n'est pas suffisant. Ils vont les développer et ils vont avoir des cerveaux hors normes, hein, qui correspondent à leur spécificité. Et ça, c'est fascinant. C'est ce que je disais quand on se parlait en off. Aujourd'hui, avec les neurosciences, plus personne ne peut dire « c'est abstrait hein, ». Ou « non, il n'y a pas de cerveau chez un athlète de haut niveau ». Il y a un cerveau est particulièrement bien cortiqué. Aujourd'hui, on a les images, hein, d'accord ? Spécialisés, ce sont vraiment des gens extrêmement précis. Le geste est complètement intégré dans le cerveau. Enfin, ça ne se dit pas comme ça, hein, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que ce geste qu'il a répété complètement, et donc les autres ne l'ont pas. Moi, je n'ai pas un cerveau d'un footballeur, ok ? Il n'y a rien qui s'active avec une balle, moi. Rien du tout.
Madame, c'était fascinant, Edouard.
Madame, c'était un vrai plaisir. Ouais, ça fait plaisir de discuter. Hein.
Pour conclure, je vous repose, mais du coup, à tous les deux la question, parce que toi, tu as performé et tu as gagné. Et Myriam, c'est son métier, mais faut-il être heureux pour performer et ou pour gagner? Qu'est-ce qu'on en pense après cette discussion?
En fin de compte, je vais répondre une phrase que Idriss Aberkane disait: un homme productif n'est pas nécessairement heureux, par contre un homme heureux est nécessairement et obligatoirement productif. Et ça, je le crois, parce que toutes les fois où j'ai gagné des titres ou des finales, j'étais bien, soit ma femme était enceinte, donc elle n'a pas été 10 fois enceinte, mais globalement, je me remémore quand on a préparé le podcast, je me suis remémoré des moments et j'étais bien, quoi. J'étais jamais triste, j'avais pas appris un deuil ou quoi que ce soit. Donc je peux dire ça, ouais. Pour moi, il y a un lien, ouais.
Alors, ça dépend ce qu'on entend sous le mot performance. Si performance, c'est se dépasser, même si on a perdu, mais qu'on a fait un super match et qu'on sort, on sait qu'on a tout donné, qu'on ne pouvait pas faire mieux, c'est aussi ça, être heureux. Hein. On peut être déçu du résultat, mais on sait que par rapport à soi-même, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Pour moi, je préfère ça que de le lier au résultat. Hein, parce qu'on va retomber dans les clichés. Si on gagne, on est bon et on est heureux. Et si on ne gagne pas, moi, mon travail, c'est d'apprendre aux joueurs que même s'ils ne gagnent pas, ce qui est fondamental, c'est que quand ils sortent, ils aient l'absolue certitude qu'ils ont tout fait, qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Alors après, ils ont le droit d'être déçus d'avoir perdu. Pour moi, ça tient un homme en équilibre. Parce que c'est tellement dur de gagner et on perd tellement que si on s'accroche juste à un résultat et qu'on considère que la performance, c'est juste un résultat, et on va vite être en déséquilibre.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous. C'était vraiment très, très sympa.
Merci. En tout cas, effectivement, on a pris beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai appris énormément de choses.
C'est mon cas avec moi.
C'est vrai. Plus je te vois, plus je progresse. Plus je suis heureux, plus je performe. Tu vois? Pas pour toi, mais moi, ça m'a fasciné. J'ai appris énormément de choses. Mais il y a un truc en particulier qui me frappe, c'est que dans un monde comme le foot, où on te parle toujours de performance, de faire mieux, de mettre les moyens, d'acheter les joueurs, etc., qu'il y ait des clés, entre guillemets, aussi simples, et que les mecs restent fermés, osent pas y aller, parce qu'ils ont des barrières, des freins, que ce soit culturel, parce qu'il y a trop d'ego. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me sidère.
Ils mettent tout sur les résultats et ils oublient les moyens pour y accéder.
Ouais,
et en fin de compte, et c'est ce qui est intéressant avec le podcast qu'on met en place, c'est justement essayer de montrer à tout le monde les moyens qu'on pourrait mettre, que les clubs pourraient mettre pour augmenter leurs résultats, leurs performances et foncièrement gagner plus d'argent.
Et donc être plus heureux. Et donc.
Et donc.
Gagner. Être...
Et donc rêver bigger.
Et dream bigger.
Ouais, dream bigger. Tu vois ce que je veux dire? Et donc.
C'est ça.
C'est ça. Donc, avant de penser aux résultats, pensons aux moyens, à tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, pour améliorer la perf.
Ouais.
Bon, ben voilà.
Qu'est-ce qu'on fait ? Rendez-vous au prochain épisode.
Rendez-vous au prochain épisode.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative.